chez Chaîne 3, le journal.
On s'informe avec vous, Fazia, bonjour.
Bonjour Hakim, madame, monsieur, bonjour. Conférence nationale sur la modernisation de l'agriculture. Elle s'ouvre aujourd'hui à Alger en présence d'experts nationaux et internationaux autour d'un même objectif. Moderniser le secteur, renforcer l'innovation et garantir la sécurité alimentaire. Nourdine Daoudi prend les commandes du géant national des hydrocarbures. Sa nomination s'inscrit dans un contexte de renouveau du secteur énergétique. La wilaya de Djelfa confirme son attractivité pour les investisseurs. Grâce à son potentiel économique et agricole, elle se transforme en pôle d'investissement soutenu par l'API. L'Algérie a officiellement signé à Hanoï la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, renforçant sa coopération internationale et son engagement pour la transformation numérique et la sécurité informatique. L'UNICEF qualifie la situation humanitaire dans la bande de Gaza de choquante, soulignant qu'un million d'enfants ont subi des horreurs quotidiennes dans l'endroit le plus dangereux du monde. Et puis sport football, Champions League africaine, le MC Alger se qualifie pour la phase de poule après son nul 0 partout face à Colombe Sportive du Cameroun.
L'agriculture qui ne cesse de se moderniser pour faire face aux enjeux, aux défis du moment. Fazia Alkhine, c'est d'ailleurs le sujet d'une conférence nationale qui s'ouvre aujourd'hui au CIC.
Une rencontre d'envergure qui réunit experts et acteurs du secteur pour élaborer une feuille de route pour une agriculture durable et performante. Les participants plancheront notamment sur les nouvelles technologies, la gestion de l'eau, les équipements et le financement. Sophia Boukelcha.
Proposer des solutions concrètes et une nouvelle vision de l'agriculture fondée sur la coopération entre experts, c'est l'objectif de cette conférence. Elle met l'accent sur l'utilisation des nouvelles technologies dans le secteur, dans le but d'améliorer la performance du secteur agricole. Lala Boukhalfa, expert en agriculture.
Les points essentiels, c'est l'organisation du secteur lui-même. L'introduction d'une nouvelle technique innovante dans la gestion agricole, surtout l'utilisation d'une nouvelle technique dans le choix du semence, l'utilisation des engrais, et l'irrigation technique.
La numérisation constitue également un point essentiel.
Un secteur de souveraineté où nous devrons assurer l'autosuffisance et garantir la sécurité alimentaire aux citoyens.
Autre axe important, le développement de nouveaux mécanismes de financement. Le dispositif est déjà élargi à d'autres banques publiques appelées à faciliter aux agriculteurs l'accès au crédit et à soutenir leurs projets.
L'ensemble des banques publiques doivent contribuer dans l'attribution des crédits aux agriculteurs. On a 6 banques. Tous les moyens sont mis à leur disposition. Il leur reste simplement de démontrer leurs efforts sur le terrain pour concrétiser le programme arrêté par l'État.
L'objectif final, proposer des solutions concrètes pour assurer la sécurité alimentaire du pays et bâtir un secteur agricole durable.
Un mot sur la campagne nationale de reboisement organisée ce week-end. Objectif dépassé avec plus d'1 300 000 arbres plantés à travers le pays. L'opération vise à réhabiliter les zones incendiées, lutter contre la désertification et étendre le barrage vert pour arriver à terme à 400 000 hectares reboisés d'ici 2030.
8h03, changement à la tête de Sonatrach, Nourdine Daoudi, le nouveau directeur général du groupe.
Il a été installé par le ministre des Hydrocarbures et des Mines en remplacement de Rachid Hachichi. Mohamed Arkab a déclaré à l'occasion que cette nomination intervient dans un contexte de renouveau du secteur énergétique national marqué par une dynamique renouvelée dans les secteurs des hydrocarbures et des mines, soulignant l'importance de l'innovation, de la modernisation et du renforcement de la production pour consolider la présence du groupe sur les marchés mondiaux. On écoute Mohamed Arkab.
Cette nomination s'inscrit dans un contexte national marqué par une dynamique renouvelée dans le secteur des hydrocarbures et des mines, une dynamique qui reflète la vision stratégique du président de la République Abdelmadjid Tebboune visant à renforcer le développement durable, à diversifier l'économie nationale et à consolider la place de l'Algérie en tant que fournisseur fiable d'énergie sur les scènes régionales et internationales.
Fort d'une expérience de 35 ans dans le secteur, Nourdine Daoudi a notamment dirigé l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures. Mohamed Arkab a rappelé également que le nouveau PDG est un expert reconnu en stratégie, en gestion de projets complexes et en coopération internationale. Je vous propose à présent d'écouter le nouveau patron de Sonatrach.
Je ressens une grande responsabilité suite à ma nomination au poste de PDG du groupe Sonatrach, pilier de l'économie nationale et des cœurs de l'industrie énergétique de notre pays. Je remercie le président de la République Abdelmadjid Tebboune pour la confiance qu'il m'a accordée, une confiance qui me motive à redoubler d'efforts et de dévouement.
Et le ministre des Hydrocarbures et des Mines a reçu le vice-président d'Equinor, Philippe Mathieu. Le géant norvégien souhaite étendre ses investissements en Algérie, notamment dans la transition énergétique et la réduction des émissions de carbone. La wilaya de Djelfa en passe de devenir un véritable pôle d'investissement grâce à son potentiel économique et agricole et à sa position stratégique. L'agence algérienne de promotion de l'investissement à travers son guichet unique accompagne les projets locaux, favorisant par là même la création d'emplois et le développement économique régional. Samia Aloun.
Le guichet de l'API à Djelfa a enregistré à son niveau plusieurs initiatives qui visent à répondre aux besoins du marché local, tandis que d'autres s'inscrivent dans une perspective d'exportation. Belkacem Messaoudi, directeur du guichet unique affilié à l'agence algérienne de promotion de l'investissement, wilaya de Djelfa.
Il existe dans la région des projets très importants, comme une usine de pâte à papier qui emploie plus de 400 travailleurs et prévoit de recruter 400 autres employés. Il y a également un projet de fabrication de câbles téléphoniques et les une première dans la région. Aussi, la fabrication de filtres pour les raffineries d'huile, une autre première à Djelfa.
Des investisseurs étrangers ont, à maintes fois, démontré un intérêt particulier pour la région qui se distingue par une position stratégique ainsi que des atouts économiques et agricoles qui caractérisent la wilaya de Djelfa.
Dans le secteur agricole, des producteurs exportent les prunes séchées produites ici vers l'Allemagne. D'autres fabriquent des cellules de batterie qu'ils exportent en Allemagne. Des investisseurs chinois sont venus ici et ont exprimé leur volonté de réaliser de grands projets industriels pouvant atteindre jusqu'à 5000 emplois directs et 2500 emplois indirects dans une seule usine.
L'agence algérienne de promotion de l'investissement à travers ses guichets uniques met à la disposition des investisseurs un environnement favorable à la concrétisation de leurs projets qui sont synonymes de création d'emplois et de croissance économique au niveau local, régional et international.
On parle à présent de la sécurité et de la protection des informations personnelles et sensibles. Fazian Kenz, l'autorité nationale de protection des données personnelles, prend part ce lundi, aujourd'hui, à Lisbonne, à la clôture du programme du Sud 5 du Conseil de l'Europe.
Un forum sur l'intelligence artificielle et la gouvernance mondiale se tiendra demain en marge de cette réunion pour discuter des défis et perspectives de l'IA en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel. Le programme s'achèvera mercredi par la remise du prix Nord-Sud 2024. Du Conseil de l'Europe. L'Algérie a officiellement signé à Hanoï la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, renforçant sa coopération internationale et son engagement pour la transformation numérique et la sécurité informatique. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magraman, a souligné à cette occasion que cette signature réaffirme l'engagement du pays en faveur du multilatéralisme et de la coopération internationale. Et pour Ali Kahlan, spécialiste en stratégie numérique, intelligence artificielle et cybercriminalité, cette convention va en premier lieu protéger le citoyen, il le dit à Nabila Hossein.
Pourquoi c'est utile ? Parce que les arnaques et les attaques viennent souvent de l'étranger. Les faux SMS, les faux liens, les comptes WhatsApp piratés, le chantage avec des photos, le vol d'argent. Avec cette convention, les pays vont coopérer plus vite entre eux. Alors qu'est-ce qui va changer une fois que le texte va être ratifié ? Pour les citoyens, on va pouvoir mieux protéger les familles contre les arnaques, la sexploitation, le chantage sexuel en ligne, l'exploitation des enfants, la pédopornographie, etc. Ça permettra également de retirer plus vite les contenus illégaux, à l'échelle internationale bien sûr, et surtout donner beaucoup plus de chances pour retrouver les auteurs, même s'ils sont à l'étranger.
8h09 sur Alger et Chaîne 3. Le Sahara occidental constitue un cas typique d'un processus de décolonisation qui n'est pas encore achevé. Les propos de l'ancien directeur adjoint du bureau des affaires du cabinet de la présidence du Nigeria, Ahmed Aminu Rumatu Youssouf, a souligné que le prétendu plan d'autonomie promu par le Maroc constitue une violation du droit international, des résolutions de l'ONU et de l'Union africaine, ainsi que de l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice. Le Marzen essuie les critiques de la Confédération marocaine du travail qui dénonce les dispositions du projet de loi de finances 2026, un texte qui favorise le secteur privé au détriment des couches démunies et qui reflète l'échec du gouvernement à Khanouch. L'UNICEF qualifie la situation humanitaire dans la bande de Gaza de choquante, soulignant qu'un million d'enfants ont subi des horreurs quotidiennes dans l'endroit le plus dangereux du monde. Plus de 64 000 enfants sont tombés en martyr ou ont été blessés et plus de 58 000 autres ont perdu un parent. L'enseignant palestinien à Gaza, Ziad Meddouh, en parle à Alias Terrini.
Après les violations de l'armée de l'occupation, de l'accord de cessez-le-feu, les bombardements reviennent bel et bien dans l'enclave palestinienne. Les enfants sont les premières victimes de cette agression horrible. 20 000 enfants ils ont été assassinés par l'occupation, 57 000 enfants blessés, 120 000 enfants malades et qui ne trouvent pas des soins. Il y a qui sont morts à cause de la famine et la malnutrition, privés de leur scolarité, de leur éducation. Donc la situation terrible, dramatique pour les enfants qui ne vivent pas une vie normale.
Autre pays en proie à une crise humanitaire, le Soudan. Près des deux tiers de sa population a besoin d'une aide d'urgence. Des cas de famine ont été signalés dans au moins 5 régions du pays. Depuis 2 ans, le Soudan fait également face aux violences qui opposent l'armée régulière aux forces de soutien rapide, des violences qui exacerbent la situation sécuritaire et humanitaire. Je vous propose d'écouter l'analyste politique Jonathan Batenguin. Il est contacté par Liester Reni.
L'Est du Soudan est aujourd'hui difficilement provisionné à partir de son principal port, qui est sous contrôle des autorités gouvernementales. De l'autre côté, avec les régions du Darfour, vous avez en contrôle des forces de soutien rapide. Les populations, malheureusement, qui sont victimes de bombardements dans les différentes villes, ces différentes opérations et montées en puissance des combats ont mis en difficulté les populations et ont sérieusement menacé la sécurité, mais aussi la quiétude et l'approvisionnement des populations en biens de première nécessité.
Au Mali, la junte au pouvoir annonce la suspension ce lundi et pour 2 semaines des cours dans les écoles et les universités. Raison invoquée, les difficultés d'approvisionnement en carburant dues au blocus imposé par les groupes terroristes qui contrôlent de nombreuses régions du pays. Et Donald Trump est attendu ce lundi au Japon dans le cadre de sa tournée asiatique, une tournée dont le grand enjeu sera de trouver un compromis commercial avec la Chine lors d'une rencontre prévue jeudi prochain avec son homologue Xi Jinping. Retour chez nous pour parler culture et plus précisément de cinéma sahraoui. Le cinéma sahraoui qui est né dans les camps de réfugiés et qui est soutenu par l'école de cinéma du Sahara occidental s'affirme comme une voie de mémoire, d'identité et de résistance pour le peuple sahraoui. Selim Hamdi, réalisateur et spécialiste de la cinématographie, prend part au panneau Panorama du cinéma sahraoui qui se poursuit à la Cinémathèque d'Alger. Hanan Saïsi l'a rencontré.
Dans les camps des réfugiés sahraouis à Tindouf, une nouvelle génération de jeunes s'empare de la caméra pour documenter leur exil et défendre leur droit à l'autodétermination. Ainsi est né un cinéma révolutionnaire qui traduit la résistance de tout un peuple. Selim Hamdi, réalisateur et spécialiste de la cinématographie.
C'est un cinéma né sur le porte-parole d'une société d'une manière esthétisée qui peut traverser les frontières. C'est un cinéma fait avec très peu de moyens, qui fait preuve de beaucoup d'ingéniosité.
En 2011, l'école de cinéma Zil Abidine Qaïd Salah est créée dans les camps des réfugiés. Cette école, soutenue par des cinéastes algériens, est cruciale pour offrir un outil de transmission et de création artistique.
On a apporté quand même notre expertise pour la mise en place de cette institution, pour l'accompagnement, pour le festival Fisaharov. On les a accompagnés à créer un écosystème cinématographique et maintenant je crois qu'ils sont assez autonomes.
Il y a eu un engouement des Sahraouis.
Oui, ils étaient très demandeurs. En fait, ça offrait une grande brèche, une grande fenêtre. Ils ne dépendaient plus de la presse internationale. Ils arrivaient à travers cette autonomie à pouvoir porter sa propre voix.
Le cinéma sahraoui prend la parole pour raconter une histoire longtemps confisquée.
Sport football pour terminer. En Champions League africaine, le AMC Alger se qualifie pour la phase de poule après son nul 0 partout face à Colombe Sportive du Cameroun. Le AMCA qui rejoint ainsi la JS Kabylie déjà qualifiée. Le tirage au sort de cette phase de groupe aura lieu le 3 novembre prochain à Johannesburg. Et puis en Liga, le Real Madrid remporte le Classico et creuse l'écart sur le Barça, score 2-1. Cette victoire permet au Real, avec cette pointe, de conforter sa première place en repoussant le Barça, champion en titre, à 5 longueurs. 8h14 sur Alger et chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïcha Hammer. Mourad était à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Yassine au streaming.